Europe 1,
9h-11h,
François Claus.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Julie. Très heureux de vous accompagner pour ces deux heures pour faire le tour de la question. On a tous là dans le studio un petit ruban rouge, un petit ruban et on va dire un grand pas pour la recherche, pour la prévention. 25 ans de SIDAction, c'était en 1991, le premier SIDAction, l'appel au don, également une prise de conscience collective, 10 ans après l'apparition des premiers cas de SIDA aux États-Unis. 25 ans de combat, beaucoup de réussite dans les traitements, un virus qu'on domestique mais qu'on n'arrive pas à éradiquer, et des messages de prévention qui, évidemment, avec cette banalisation, ont besoin d'être réactivés. C'est un petit peu le but. On va donc, Julie, faire le point sur la recherche, l'espoir d'un traitement, mais aussi sur les nouveaux messages et la manière dont la jeunesse perçoit ce virus. Nous avions une question d'ailleurs, Julie,
Facebook. La question Facebook du jour,
Facebook, oui. On a eu plus de 4000 réponses.
Oui, la question c'était, selon vous, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle suffisamment sensibilisée aux risques liés au SIDA ? Non à 71%. Vous l'avez dit, plus de 4000 votes.
Ouais. Oui, non à 71%. On voit donc qu'il y a, c'est peut-être les parents qui ont appelé. On verra tout à l'heure que du côté des jeunes aussi, il y a une demande d'information supplémentaire. Et puis,
il y a quelques commentaires, si vous en voulez.
Hein.
Bien sûr. Eden nous dit non, car non, donc ils ne sont pas sensibilisés suffisamment. Non, car dès qu'on veut essayer d'éduquer les enfants au collège ou au lycée sur la sexualité, il y a des parents qui crient au scandale.
Oui, ça alors il y a des problèmes effectivement de débat un peu moral, mais
autre témoignage, il y a, je trouve, une sorte de banalisation de ce fléau qui sévit toujours, peut-être parce que les jeunes de maintenant n'ont pas connu les premières années SIDA où l'on perdait rapidement nos amis. Encouragez vos jeunes à se faire prescrire et à utiliser les préservatifs remboursés. Il faut qu'on vienne à bout de ce fléau. Il y en a d'autres, bien sûr.
Et on les verra au cours de l'émission. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au 39-21. Et puis, changement de programme à partir de 10h. On va parler de vous, chers auditeurs, et de nous, Europe 1. On va parler des podcasts. Le mot n'est pas très beau, mais c'est la radio de demain. Et on va vous expliquer ce que ça va changer pour vous. Et ce que ça apporte aussi, parce que le podcast, c'est la radio qu'on n'entend pas forcément à la radio, mais c'est une nouvelle forme de radio. Et comme Europe 1 a toujours été dans l'histoire de la radio, Europe 1 est au cœur de ce mouvement. Voilà, le programme est établi, nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Bonjour Madame Karmochkine.
Bonjour.
Marina Karmochkine, vous êtes immunologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci d'être venue jusqu'à Europe 1. Aline Pelletier, qui est chargée de mission à l'association Remedia, va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais vous proposer, Madame Karmochkine, d'écouter deux témoignages qui montrent bien ce qui s'est passé en 25 ans. Paris, année 90, début des années 90, le fameux film 120 battements par minute. Voilà comment était à ce moment-là vécue l'épidémie.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
La bande-annonce du très beau film 120 battements par minute de Romain Campillo qui restituait le combat des premières associations, c'est le temps, vous l'avez entendu, d'une forme de guerre. SIDAction 2019.
Dans la lutte contre le virus du sida, la recherche et l'accompagnement ont fait tellement de progrès qu'on finit par penser que le virus du sida ne touche plus personne, qu'il a disparu. Mais malheureusement, en 2019, le virus du sida est toujours là. Il infecte encore 6000 personnes par an en France. Et l'oublier le rend encore plus dangereux. Alors n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner au 110 ou sur sidaction.org.
Voilà le message que le SIDAction diffuse. Donc vous pouvez tout au long du week-end faire vos dons au 110. Marina Karmochkine, on est passé du temps de la guerre au temps de n'oublions pas. C'est-à-dire que le revers de la médaille des progrès en termes de traitement, à défaut d'éradiquer le virus, ont entraîné une forme de banalisation. Vous êtes dans cette situation-là, vous qui travaillez à l'hôpital, sur ce virus.
Et oui, évidemment, c'est tout le paradoxe.
Au début des années sida, sida égale mort. Et donc, il y avait une forme de combat, de résistance. Et aujourd'hui, grâce au traitement, effectivement, il n'y a plus cette équation tragique. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à faire passer les messages de prévention.
Et il faut revenir quand même sur ce combat qui a été mené. Lorsqu'on se trouvait séropositif dans les années 90, on mourait. Lorsqu'on est séropositif aujourd'hui, on vit, mais le virus est toujours là.
Et oui, c'est un virus chronique, c'est-à-dire que malgré les traitements, le virus est toujours caché quelque part à l'intérieur du corps. Donc on n'arrive pas à éradiquer ce virus. C'est effectivement un des axes de recherche, un des axes pour lequel SIDAction est important d'ailleurs, puisqu'il faut de l'argent pour ces recherches-là. Là, on arrive à endormir avec les trithérapies. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir des stratégies qui permettent d'éradiquer, de guérir, comme on le fait par exemple avec le virus de l'hépatite C actuellement.
Et ce virus, il est particulièrement résistant, mutant. Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a cette forme d'impuissance en un quart de siècle à le combattre et à l'éradiquer définitivement?
Alors, c'est un virus qui est très particulier parce qu'il va infecter les cellules du système immunitaire. Alors que d'habitude, quand vous avez un autre virus, une hépatite, une grippe, en fait, le système immunitaire va venir combattre le virus. Or là, ce virus VIH, il vient dans le système immunitaire et donc il va le rendre absolument non fonctionnel et du coup on n'arrive pas à s'en débarrasser. En plus, c'est un virus qui a un taux de multiplication quotidien qui est extrêmement important. Donc en l'absence de traitement, il crée vraiment des dégâts.
Aline Pelletier nous a rejoint dans ce studio.
Désolé.
Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'association Aremedia. Vous travaillez sur les messages de prévention. Et votre difficulté à vous, c'est d'expliquer à une génération qui n'a pas connu le sida mortel que le sida est quand même dangereux.
Oui, une difficulté, oui et non. C'est-à-dire que c'est juste différent, qu'il faut le faire en ayant ça en tête, donner une image à la fois dangereuse de la maladie, mais qui permet aussi de ne plus la stigmatiser comme c'était le cas avant. Donc c'est un peu ça, effectivement, les objectifs qu'on se fixe. Tout le monde a un peu en tête quand même ce que c'est le VIH, le sida, qu'il faut s'en protéger, qu'il y a le préservatif. Mais effectivement, il n'y a plus cette terreur qu'il y avait autrefois et qui peut-être motivait un peu plus à se protéger.
Ça veut dire que c'est une des messages qui évolue, on le verra, il y a du travail. Un sondage de l'IFOP vient d'être réalisé sur la perception du sida par la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a encore du travail, on va faire le tour de la question jusqu'à 10h, Julie.
Le SIDAction aura lieu ce week-end pour ses 25 ans de lutte contre le sida. La nouvelle campagne de sensibilisation contre l'épidémie est placée sous le signe de l'oubli. Ne surtout pas oublier qu'en 2019, le virus du sida est toujours là. François Claus.
Et nous sommes surtout en studio avec Marina Karmochkine, médecin immunologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou, et avec Aline Pelletier, chargée de mission à l'association Aremedia, qui lutte pour faire passer des messages en milieu scolaire et auprès de populations. On attend vos témoignages, évidemment, 3921, notre question Facebook. Nous avons Fred qui est au téléphone. Fred, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris?
Oui, c'est ça.
Et vous avez 38 ans, je vois, et vous vouliez témoigner de ce que c'est qu'aujourd'hui de vivre avec une séropositivité.
C'est ça. Donc moi, je suis j'ai 38 ans, je suis séropositif depuis 10 ans bientôt. Et moi, je voulais parler de la sérophobie, en fait. La sérophobie, c'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH. Et je vais vous donner un exemple concret. Donc, moi, je suis gay et sur les applis de rencontres gays, pour vous demander si vous êtes séropositif, on vous demande si vous êtes clean, en fait. Et clean, en anglais, ça veut dire propre. Donc, ça sous-entend qu'une personne vivant avec le VIH serait sale. Donc, c'est très stigmatisant, c'est très violent. Et voilà, c'est le genre de propos que les personnes séropositives ont droit au quotidien. Et voilà, c'est assez compliqué. Moi, je suis militant, j'habite à Paris, donc je me considère comme quelqu'un de privilégié. Mais bon, pour quelqu'un d'un peu plus vulnérable, ça peut être très violent.
On l'imagine, Fred. On avait le sentiment, justement, par rapport aux années 90, cette peur. On parlait du cancer des homos. On parlait de où il y avait beaucoup de fantasmes, que les choses avaient évolué dans les mentalités. Vous nous dites aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué d'assumer et d'être obligé de vivre avec sa séropositivité.
Ce qui est très paradoxal, c'est que les avancées scientifiques ont vraiment évolué. Aujourd'hui, en 2019, c'est possible d'avoir une vie quasi normale avec les VIH. Mais par contre, l'opinion publique est restée bloquée dans les années 90. Ils ne sont pas du tout au fait aujourd'hui qu'une personne séropositive sous traitement à une charge virale indétectable, donc ne transmet pas le VIH. C'est ce qu'on appelle le TAS, Treatment and Prevention en anglais. Et donc voilà, il y a tout un tas d'avancées qui ne sont pas connues de la population. Moi, ce que j'ai fait en tant que militant, c'est que j'ai créé un site qui s'appelle Parcours Positif et qui est destiné aux personnes qui viennent de découvrir leur statut sérologique, voilà, pour les aider et les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, quand on découvre qu'on est séropo, le premier réflexe, c'est qu'on va sur Internet, on va sur un moteur de recherche, on tape SIDA, et là, on tombe sur des images qui peuvent être parfois anxiogènes, qui datent des années 80.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Voilà, et qui correspondent pas forcément à la réalité du VIH en France en 2019. Donc c'est important aujourd'hui de faire de la prévention, de l'information autour de la réalité aujourd'hui en 2019.
Merci beaucoup Fred de votre témoignage. Vous confirmez, docteur Karmochkine, qu'aujourd'hui on a une protection lorsqu'on est traité.
Oui, absolument. Oui, je voulais rebondir sur les paroles de Fred. Bonjour Fred. Il dit deux choses. Une chose qui est hyper importante aujourd'hui, il faut continuer à lutter contre l'homophobie, lutter contre la sérophobie. C'est absolument essentiel pour continuer à faire passer des messages de prévention. La deuxième chose que dit Fred et qui est hyper important, quand on a été dépisté séropositif, malheureusement, on a accès à un médicament. Quand on est sous traitement et après 6 mois de traitement bien pris, on a ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qu'on mesure dans le sang, qui devient indétectable. Et à ce moment-là, on n'est plus contaminant pour ses partenaires. Et c'est quelque chose qui est hyper important comme message.
En tant que personne séropositive, savoir qu'on a le VIH, mais qu'on ne peut pas le transmettre, c'est juste une révolution. Voilà, en termes d'estime de soi et de confiance en soi, et pour retrouver une vie affective et sexuelle épanouie, c'est très important.
Ça veut dire également que les messages, Aline Pelletier, doivent être adressés à ceux qui vivent encore avec cette forme de phobie, malgré les réponses, on l'a vu là, médicales apportées
sur le virus. C'est toute la difficulté et tout le paradoxe qui était évoqué tout à l'heure en début d'émission, c'est que il faut dire aux gens qu'il faut être vigilant pour ne pas se contaminer, mais qu'en même temps, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sous traitement, c'est pas dangereux. Donc il y a quelque chose qui a changé dans les mentalités parce qu'on a été ancré dans cette psychose à une époque et qu'il faut maintenant en sortir pour créer de nouveaux paradigmes.
Docteur Karmochkine.
Du coup, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure, deux messages hyper simples pour les auditeurs. On a une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est la vie un peu de tout le monde, des hommes et des femmes. Une relation d'un soir, on se protège. On ne se pose pas de questions, on utilise un préservatif. En revanche, quand on est dans une relation stable, on se teste ensemble. Si les deux sont séronégatifs, on enlève le préservatif. Si on a rencontré quelqu'un qui est séropositif, la personne est traitée et au bout de 6 mois de traitement, dans cette relation stable, on n'a plus besoin de mettre le préservatif et c'est formidable.
Et c'est ce qui a effectivement totalement changé la donne depuis l'arrivée de la trithérapie en 1996. On a eu beaucoup là de films qui sont revenus sur les années 90 et sur le début de l'épidémie. Je pense au film de Téchiné, Les Témoins, mais plus récemment encore le 120 battements par minute qu'on a entendu, et le très beau « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré. Et on voit dans ce que vous dites là, par rapport aux années 90, ce qui a évolué. La vie de couple n'était quasiment plus possible dans les années 90, elle l'est aujourd'hui. Restez bien avec nous, Julie.
Mais c'est bizarre parce qu'on n'a jamais communiqué là-dessus, là, le traitement au bout de 6 mois et après on ne peut plus contaminer son partenaire. C'est quand même...
Messages relativement récents, en fait.
Ah, c'est récent,
c'est découvert. Et c'est pour ça qu'on fait le tour de la question, notamment ce matin. Restez bien avec nous, témoignez 39-21.
Le tour de la question sur le sida à l'occasion du SIDAction qui a lieu ce week-end. N'oubliez pas de faire un don.
Faire un don, c'est le 110, numéro gratuit pour effectivement aider à la recherche. On a vu comment la recherche en 25 ans a progressé, n'a pas trouvé le fameux mythe du vaccin qui était le grand combat, semble-t-il, des premières conférences mondiales sur le sida dans les années 90. Il n'est pas là, il n'est pas au point, mais c'est la trithérapie aujourd'hui, on l'a compris, qui change la donne Docteur Karmochkine.
Alors, le vaccin, c'est pas vraiment un mythe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Et aujourd'hui, on ne l'a pas, le vaccin préventif. Mais il y a toujours des gens qui le cherchent. La trithérapie, donc, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des médicaments, c'est de la chimie, qui va empêcher la multiplication de ce virus. En fait, comme vous le disiez, François, dans les premières années, donc, on a découvert les premiers cas en 80, le virus découvert par une équipe française en 83. Et puis, en fait, du coup, les chercheurs ont vraiment réussi à percer les mystères du virus. Et en comprenant comment il se multipliait, en fait, on a pu développer des armes et de la chimie qui va empêcher sa multiplication. Et quand on mettait un médicament, la monothérapie, ça marchait pas. Deux, la bithérapie, ça marchait pas. Et à partir de 96, on a eu une nouvelle classe de médicaments qui associait aux autres, ce qu'on a appelé la trithérapie, trois produits qui venaient bloquer la multiplication virale.
Alors, au début, beaucoup se plaignaient des effets indésirables, que certes, on arrivait à vivre, mais ce n'était pas une vie normale, il y avait énormément de lourdeur dans les traitements. On a énormément progressé ces derniers temps, Marina Karmochkine, également sur cet aspect-là qui est fondamental pour la vie quotidienne.
Absolument. Alors les firmes pharmaceutiques, en général, on les pointe du doigt en disant qu'elles font du profit. Oui, elles font du profit, elles en font même sur le dos des séropositifs, puisque c'est des traitements à vie, donc il y a eu beaucoup de recherches. Les firmes étaient très très motivées, mais effectivement, elles ont mis au point des médicaments qui sont très efficace et beaucoup mieux toléré que par le passé. Donc, dans les années 96-98, il y avait parfois des trithérapies avec 15-20 gélules par jour, de la diarrhée, des nausées, des modifications de la répartition des graisses, de l'insuffisance rénale. Enfin, c'était quand même difficile. Et aujourd'hui, les trithérapies actuelles, c'est pas tout rose, hein, puisqu'il y a quand même la contrainte de devoir les prendre très régulièrement tous les jours. Il y a quand même beaucoup moins d'effets secondaires.
Moins d'effets secondaires. Une charge virale qui est contrôlée, il y a un coût, et il faut dire là, la société française le prend totalement à sa charge. On est quand même sur un traitement cher.
Oui. Alors les trithérapies, donc il y en a un certain nombre qui ont été génériquées, donc les prix ont baissé, mais disons qu'on est entre 300 et 1000 euros par mois et à vie.
300 et 1000 euros par an.
Par mois,
et par vie. Ça veut dire également, il y a 172 000 personnes infectées en France à l'heure où nous parlons, presque 40 millions dans le monde. Tout le monde n'a pas accès à cette trithérapie.
Non, je crois qu'en France, on est quand même chanceux. Hein, tout le monde a accès aux médicaments.
C'est ce que je voulais vous faire dire également, puisqu'il y a un grand débat sur aujourd'hui la protection sociale en France.
Non, il faut que ça continue, bien évidemment. Il faut toujours qu'on soit dans l'inclusion. Il faut qu'on puisse soigner les migrants et les migrantes. On a effectivement des drames humains. Tous les jours, je vois des femmes africaines qui ont vécu l'enfer en Libye. Et la France doit s'honorer de continuer à les accueillir. Et lorsque, malheureusement, elles sont séropositives, parfois elles arrivent séropositives et enceintes, on doit pouvoir les accompagner pour les soigner, les héberger, leur proposer des titres de séjour.
Ce sont des messages, Aline Pelletier, et des populations auprès de qui vous faites passer des messages également, et c'est un domaine très important.
Oui, c'est des populations qu'on sensibilise, qu'on informe et qu'on dépiste, quand elles le souhaitent, bien sûr. En tout cas, on propose dans les structures d'accueil de ces publics des dépistages qu'on appelle la totale, donc qui sont des dépistages complets par prise de sang de toutes les infections sexuellement transmissibles, dans le but effectivement de ne pas rater une opportunité d'accéder aux soins et donc de bloquer cette fameuse charge virale et aussi d'éviter de propager la maladie.
Et ce message est également extrêmement important. Alors nous avons beaucoup d'appels sur notre standard ce matin. Je voudrais parler avec Romane. Bonjour Romane.
Oui, bonjour.
Vous avez monté une association qui s'appelle Séropote par rapport justement à cette perception encore fantasmée par une partie de l'opinion publique. Vous serrez les coudes, c'est ça, et vous avez créé un réseau d'entraide.
Oui, en fait, l'objectif de l'association, c'est d'accompagner des personnes concernées par le VIH dans leur travail d'acceptation de leur séropositivité. Parce que la première réaction, quand on apprend qu'on est séropo, pour beaucoup de personnes concernées, c'est de mettre en place des stratégies d'évitement, c'est-à-dire de le taire, de ne pas le dire à ses partenaires, y compris des partenaires affectifs. Hein. 43% de personnes séropos ne disent pas leur statut à plus que 3 personnes aujourd'hui, et près de la moitié ne le disent pas à leur partenaire occasionnel. Donc il y a toute une... La première réaction, c'est de ne pas dire la chose. Et notre association est née justement de la volonté d'aller au-delà de ça et d'accueillir ce qui vient à notre rencontre, de l'accepter pour soi, d'accepter sa différence, de trouver à la séropositivité une place dans sa vie, pas plus ni moins que ce qu'elle mérite, et également de travailler à ce que notre environnement, la société, accepte notre différence et qu'on puisse tous vivre ensemble.
Je retiens, Roman, là, pas plus ni moins, dit-il, l'expression assez forte. On voit dans la communauté homosexuelle qu'il y a une réaction d'entraide, une volonté là de partager ces messages, mais les derniers chiffres montrent également la montée des cas de sida chez les hétérosexuels et chez les femmes également, docteur Karmochkine.
Oui, et donc toujours quand même principalement chez des gens originaires d'Afrique subsaharienne, même si bien évidemment le VIH peut toucher n'importe qui.
Et ces messages, eh ben, continuez à les diffuser, à les partager. C'est une question de vivre ensemble, j'allais dire, Aline Pelletier.
C'est une question de vivre ensemble, c'est une question d'information. L'idée, c'est à la fois d'informer de manière très pragmatique, mais aussi que ça prenne du sens dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, voilà, encore les idées reçues sur s'embrasser, ça peut transmettre le virus. Il y a tout ce travail qui est encore à faire valoir pour ensuite déconstruire les représentations qu'on a sur la maladie et les malades.
Et on va voir tout à l'heure, en reparlant du sondage IFOP et avec un reportage dans un établissement scolaire de la région parisienne, qu'il y a effectivement du travail. Roman, vous vouliez éventuellement ajouter un petit mot pour finir à l'adresse de nos auditeurs. Et Roman nous a quitté, on le remercie, il est au travail là pour tout vous dire, il nous a appelé pendant ses heures de travail parce qu'il tenait à témoigner, on le remercie beaucoup de son témoignage. On continue à faire le tour de la question, Julie.
Un peu de musique maintenant, François. On a choisi une artiste qui se produira au Solidays, hein. C'est en juin à Paris, 21, 22, 23 juin, et c'est Angèle.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Elle nous dit « je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux ». Eh ben elle passe.
Ben elle passe et ses mots, ils sont beaux, quoi.
Et on la passe particulièrement aujourd'hui puisqu'on parle du sida. Elle se produira au Solidays à Paris en juin prochain.
C'est du 21 au 23 juin dans le bois de Vincennes. Et c'est au-delà du sida, c'est aussi un rendez-vous pour la jeunesse associative qui milite sur le terrain. Et on est très fiers, Europe 1, d'être associés à ce week-end du 21 au 23 juin. Oui, parce que le message à destination des jeunes, on voit d'ailleurs dans la programmation de Solidaise, le groupe vedette, c'est NTM. Alors, j'allais dire pour les jeunes, c'est aussi pour les un peu moins jeunes, puisqu'il y a quelques années déjà qu'ils tournent, nos amis de NTM, mais qu'il y a une programmation destinée aux jeunes, car ce message, Aline Pelletier, on le voit avec le dernier sondage IFOP qui a été réalisé, a besoin d'être, allez, on va dire martelé même.
Oui.
Il faut de se protéger, tout simplement.
C'est ça, de se protéger, que c'est une maladie qui a toujours cours, bien en France, qu'elle concerne tout le monde. Et voilà, donc effectivement, le préservatif, toutes les évolutions qu'il y a en termes de prévention et de traitement, qui sont évidemment des très bonnes nouvelles et dont il ne faut pas se gâcher le plaisir. Mais effectivement, se parler de sexualité en parlant de plaisir, mais de protection, c'est tout l'enjeu avec un public jeune.
Ne pas se gâcher le plaisir. Non. Alors, il faut également marteler ce message-là. Je vous propose, Aline Pelletier et Dr Karmouchkine, d'écouter ces quelques témoignages recueillis hier dans un établissement de la région parisienne par notre reporter Jean-Jacques Herry.
En quatrième, l'éducation sexuelle, franchement, c'était vraiment minime, quoi. On parle pas assez de certaines choses. Par exemple, j'ai plein d'amis qui étaient pas au courant qu'on pouvait attraper des maladies sexuellement transmissibles par la fellation. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu ça.
Certains amis peuvent avoir des questions comme est-ce que ça se transmet par le baiser, par le sang, tout ça. Enfin, il y a plein de questions, en fait.
Plein de questions, dit-on. Et puis, parfois, des langues aussi qui se délient pour révéler un certain nombre de pratiques.
Des fois, il peut mettre des préservatifs, des fois, il n'en met pas. Après, il fait des tests, en fait, pour voir s'il a quelque chose ou pas. Voilà, on sait que ce n'est pas très bien de faire ça. Même moi, des fois, je décourage.
Alors, voilà ce que disent ces jeunes. Aline Pelletier, j'imagine, c'est ce que vous rencontrez au quotidien dans votre travail. Et c'est ces idées-là que vous voulez combattre.
En fait, on veut surtout qu'elles émergent, on veut surtout que les questions elles puissent être posées, on veut surtout pouvoir aller rencontrer ces jeunes. Finalement, nous, on va dans pas mal d'établissements scolaires, mais une infime partie par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de pouvoir rencontrer ces jeunes, faire émerger leurs questions, les faire parler entre eux aussi, parce que finalement, la santé sexuelle, la sexualité, la relation...
C'est pas évident quand on a 14 ans, 15 ans, d'en parler, même de recevoir un discours. Ça demande beaucoup de finesse,
oui,
j'imagine.
Enfin, voilà, il faut trouver des outils, il faut trouver des méthodes qu'on a, hein, quand on arrive en général, les langues se délient assez facilement parce que, évidemment, il y a plein de questions et à chaque âge, c'est différent selon qu'on ait déjà eu ses premières fois, ses premières expériences ou pas. Mais dans tous les cas, à chaque étape, il y a des questions importantes et si on n'ose les poser à personne, on se fait des réponses parfois un petit peu à côté de la plaque.
Et on entendait également ce témoignage et il y a l'éducation nationale a son rôle à jouer, les fameux cours d'éducation sexuelle. On sentait dans le témoignage de cette jeune fille notamment qu'il y a un manque là, non ? Vous le ressentez vous aussi ?
Oui, on le ressent. Alors, c'est compliqué le rôle de l'éducation nationale parce qu'on peut entendre qu'effectivement les cours de SVT soient pas forcément les plus adaptés pour transmettre ce genre de message. Ça peut être un moyen détourné en fonction des professeurs, de leur implication, de leur sensibilité. Après, voilà, il y a d'autres structures. Nous, on est là pour ça, mais effectivement, on demande qu'à pouvoir les rencontrer, ces jeunes.
Le travail des médecins, Dr Karmouchkine, est intimement lié au travail des associations et du discours sur le terrain. Quand on travaille dans ce domaine-là, c'est pas le rapport avec les patients n'est pas anodin.
Alors, je dois dire que maintenant, dans la mesure où on a des nouveaux outils thérapeutiques, on rencontre tous les publics, parce qu'on n'a pas encore tout à fait parlé de traitement post-exposition et de traitement pré-exposition. Alors, le traitement post-exposition, c'est un traitement auquel on peut avoir accès dans tous les services d'urgence de France, qui est une trithérapie d'urgence qu'on peut prendre dans les 48 heures qui suivent un rapport à risque.
Considéré comme très risqué,
c'est-à-dire
oui.
Une capote qui a craqué ou pas de capote du tout. Et donc dans
ça, c'est fondamental. Hein. On se souvient dans le combat pour la contraception de la fameuse pilule du lendemain. Et en même temps, ça ne doit pas. Vaut mieux mettre un préservatif avant. Si par hasard, il y a eu un incident ou si il y a eu impossibilité, vous nous dites qu'il y a pas un médicament, mais une prévention.
Alors, c'est un médicament, c'est une trithérapie qu'on donne là pendant 4 semaines. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, ça m'amène, moi, à rencontrer un certain nombre de jeunes qui sont séronégatifs, puisqu'ils viennent pour chercher un traitement d'urgence. Mais jeunes, d'ailleurs, et moins jeunes, hein, puisque le VIH concerne tout le monde. Et effectivement, je suis absolument sidérée du nombre d'idées fausses qui circulent actuellement, ce qui témoigne vraiment de la mésinformation et ce qui témoigne de l'importance de SIDAction.
Ouais. Alors, c'était important, là, de focaliser sur ce traitement préventif post-danger, et vous avez évoqué un traitement également pré-danger, qui est notamment testé du côté de San Francisco avec un certain succès.
Alors, qui est tout à fait commercialisé en France, hein, qui est remboursé en France, qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition.
Je parlais de San Francisco parce que les premières enquêtes extrêmement optimistes viennent de, au sein de la communauté homosexuelle de San Francisco, viennent d'être publiées. On parle d'un taux de 90% de réussite.
Ah oui, absolument. Sur San Francisco, on a des chiffres. Sur Paris, sur la France, il y a environ 3000 personnes qui sont sous PrEP, prévention, pré-exposition. Et là, c'est un concept un petit peu différent. On est toujours dans de la chimie. L'idée, c'est d'imbiber le corps d'antirétroviraux. Et donc, quand on est très à risque, parce qu'on a fait de nombreux partenaires, on peut bénéficier. Alors là, c'est une bithérapie qu'on prend et qui a effectivement un effet protecteur qui est efficace. Et le concept, c'était d'avoir une arme supplémentaire de prévention du VIH, en plus des préservatifs. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un usage un peu détourné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent cette chimie à la place de la capote. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas des bons chiffres sur l'épidémie de sida en France. On aurait dû, grâce à cet outil et à la capote, on aurait dû voir des chiffres qui baissent énormément. Malheureusement, il y a un petit peu un usage, un mésusage de la PrEP. C'est un outil très intéressant, qu'il faut évidemment promouvoir, mais qui doit aller avec le préservatif.
Et voilà, c'est un message, on se protège, et si on n'a pas pu, ou on estime que c'est compliqué de se protéger, on peut éventuellement aller du côté de la chimie, mais qui n'est pas, rappelons-le, un vrai médicament, mais une protection et une arme supplémentaire. Courte pause, Julie, et on va revenir avec, on a Françoise qui vous appelle, notamment dans le département de Lyon, vous allez voir, c'est très intéressant, son témoignage. Dans un instant, on fait le tour de la question. 25 ans de SIDAction, donnée au 110.
Le tour de la question sur le sida et le SIDAction. On retrouve François Claus et ses invités. Marina Karmochkine, qui est médecin, immunologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et Aline Pelletier, qui est chargée de mission à l'association Arrêt Média, qui intervient en milieu scolaire et sur des populations à risque pour une meilleure prévention.
Et bien sûr, vos témoignages également au 39-21. Et nous sommes heureux d'accueillir sur l'antenne d'Europe 1, Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour. Bonjour à vous tous et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez du département de Lyon.
De la Bourgogne. Hein,
de la belle Bourgogne. Et oui. Vous vouliez apporter oui, je voulais... votre témoignage à
Tout
ce débat.
Tout à fait,
débat.
Oui, voilà. Absolument. Moi, j'ai vécu cette situation. C'était un drame pour moi. Mon fils, mon grand-fils,
On vous sent très ému, effectivement.
Voilà, était séropositif. Ben, je ne le savais pas. Il faisait médecine, il était en quatrième année de médecine. On n'a jamais su vraiment comment... Enfin bref, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que quand on l'a su, il était déjà dans le coma à Paris. Donc on est allé à Paris. On nous a pas
c'était,
dit...
C'était en quelle année, Françoise ?
C'était en 91. Mmh. C'était au tout début de la maladie.
Oui, oui, on l'évoquait voilà. Tout à l'heure avec le film 120 battements voilà, par minute dont on entendait la bande-annonce. Ouais.
Oui, tout à fait, voilà. Donc nous avons été à Paris, bon, voilà. Alors, on nous habillait, bref. Et puis après, on nous disait, il ne va pas se réveiller. Mais bon, moi, je suis très croyante, donc il s'est réveillé et je l'ai fait revenir à l'hôpital à Auxerre. Mais par contre, à Auxerre, moi, j'ai vécu des scènes horribles. J'ai vu mon fils nu sur son lit. On ne s'occupait pas de lui du tout. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas du tout d'informations. Les infirmières ne savaient pas du tout ce que c'était que cette maladie. Il faut savoir qu'il y avait des idiots.
Votre témoignage, Françoise, est évidemment bouleversant et intéressant parce qu'il montre aussi, d'une certaine manière, tout le parcours qui a été effectué. Parce que ce que vous avez vécu là, en 91, à Auxerre, on ne le vit plus aujourd'hui.
Heureusement. oui. Heureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il faudrait dire, moi je voudrais m'adresser aux parents et même les grands-parents peuvent le faire. Moi j'ai des petits-enfants qui sont grands, enfin qui ont 17 et 18 ans, je leur dis, et qui ont des petites copines, je leur dis préservatif. Parce que quand moi mon fils est parti, est décédé, je suis rentrée à l'association Aide, au lieu de m'effondrer de chagrin, je suis rentrée à l'association Aide, et pendant 15 ans, j'ai fait de l'information, et quand je suis tombée malade du cœur, je ne pouvais plus me rendre à Auxerre tous les jours. Par contre, je faisais de la formation dans les collèges et dans les lycées. J'avais mon carton de préservatif dans ma voiture et je faisais de la formation. Et après, les enfants, les jeunes adolescents venaient chercher des préservatifs et je continuais. Et j'ai fait ça pendant des années. Il faut absolument prévenir les enfants. C'est très important parce que le VIH revient de plus en plus.
Merci beaucoup Françoise pour votre témoignage très très touchant effectivement. Aline Pelletier, c'est plus efficace encore que toute association, que toute ce combat de Françoise, il est celui qui permet aussi justement oui. de faire passer le message.
Alors c'est un très beau témoignage effectivement et qui donne le reflet d'une époque qui a changé en fait, et c'est pour ça que ça résonne encore différemment quand on fait entendre ça à des jeunes, parce que ça leur semble quand même assez loin, alors que c'est une poignée d'années finalement qui s'est écoulée simplement. Et en fait, Françoise, elle dit quelque chose peut-être d'intéressant quand elle dit d'en parler aux enfants. En fait, je pense que, alors c'est peut-être un biais de langage, mais finalement, même les enfants, il faut arriver à leur en parler de sexualité, alors avec des mots qui leur sont adaptés, qu'ils connaissent. Mais vraiment, à chaque âge, ça a du sens de pouvoir imposer le préservatif, mais en tout cas se dire que c'est important d'en avoir un, qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, d'oser en parler et d'oser dire non si on n'en a pas.
Et il y a un message également important qu'on n'a pas évoqué, mais aujourd'hui, les tests de dépistage, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu l'époque où on allait dans un laboratoire, il fallait attendre 15 jours d'angoisse. Aujourd'hui, les tests, docteur Karmushkin, sont faciles d'utilisation.
Ah oui, c'est très très facile de se faire tester. D'ailleurs, il y a 5 millions de tests de dépistage chaque année en France. Mais on pense qu'on ne dépiste pas les bonnes personnes, puisqu'il y a toujours une épidémie un peu cachée. Donc se faire dépister, bon, le laboratoire à côté de chez soi, c'est une très très bonne solution, c'est remboursé à 100%. Mais ça peut être aussi un autotest en pharmacie, ça peut être dans un centre communautaire, c'est-à-dire dans une association. Et donc en fait, l'idée, c'est juste de franchir le pas, vouloir se faire tester.
Mais c'est bien pour ça que je posais cette question, parce que c'est un autre message, Julie, très important à faire passer. On estime qu'il y a environ 25 000 personnes en France qui sont aujourd'hui séropositives sans le savoir. Dernière partie dans un instant, et on va parler des moments très importants.
Encore un commentaire à notre question du jour. Selon vous, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils suffisamment sensibilisés aux risques liés au sida ? Cédric nous écrit : les parents ont tellement peur du sida qu'ils n'osent pas en parler. Car c'est tabou. Certains croient qu'on est comme des lépreux. Moi, je suis isolée. Tout le monde a peur de moi.
Et c'est bien pour ça qu'on est là. C'est pour leur expliquer justement qu'il faut certes ne pas négliger la gravité de cette maladie. Et c'est toute la difficulté, mais qu'il ne faut pas en avoir peur. Et qu'aujourd'hui, à défaut d'éradiquer le virus, on arrive à le domestiquer. Et qu'il y a une panoplie qu'on a essayé de dérouler pendant une heure qui permet de vivre aujourd'hui avec le virus et de ne pas être contaminant, entre guillemets. Alors, je voulais dire un petit mot de la situation des femmes et des mamans, et je suis heureux d'accueillir au standard Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour François, bonjour docteur Karmushkin et bonjour aux auditeurs.
Vous nous appelez de Bretagne, vous vouliez témoigner, Morgane, de votre cas et de votre histoire.
Oui, en fait, ça revient. Donc déjà, merci à Fred, Romane et Françoise pour leur témoignage et à vous, car en fait, ça complète complètement la vie, je pense, des personnes séropositives, encore plus en province. La ruralité, l'isolement, le paraître en tant que femme, c'est très compliqué, en fait, surtout quand on est jeune. J'ai attrapé ça, j'avais 17 ans, lors d'un de mes premiers rapports sexuels, avec quelqu'un qui le savait, mais qui ne me l'avait pas dit, bien sûr. J'ai eu de la chance de faire une primo-infection, donc de le découvrir tout de suite. Mais c'est vrai que je suis tombée en fait enceinte avec la personne que j'ai rencontrée par la suite et qui m'a acceptée. Et là-dessus, pour moi, c'était exceptionnel. Donc, il fallait le garder. Et donc, du coup, je suis tombée enceinte avec un préservatif qui a craqué. Et c'était en 2000. Donc, c'est beaucoup plus vieux par rapport à ce que racontait Françoise. Mais en fait, voilà, la province, la ruralité fait que forcément, bah, ça vient avec, sous vous dites, les professionnels de santé qui sont pas forcément au courant et en information de l'avancée thérapeutique. Et à l'époque, en 2000, bon, c'était assez compliqué encore, mais moi, j'ai eu une césarienne et on m'a dit que mon enfant ne pouvait pas être mis avec les autres en nurserie le soir parce que ça pouvait se transmettre avec un autre. Ça pouvait se transmettre d'un berceau à l'autre. Je l'ai vécu vraiment très mal. C'est là où je me suis sentie discriminée. En fait, c'était un an à peu près ma contamination. C'est vrai qu'en fait, je le vivais moi dans une commune. Mais en fait, c'était moi, ça me touchait. Mais toucher mon enfant qui naît net, ça a été quelque chose de très brutal.
Oui, on l'imagine très bien. Un mot du docteur Karmochkine sur cette histoire.
Oui, bonjour Morgane. Écoutez, effectivement, dans les années 80-90, on réagissait mal, on ne connaissait pas, on avait peur. Et effectivement, je pense que nous, soignants, on a été très stigmatisants. Après, je crois que le message fort de Morgane, c'est de dire, quand on est une femme séropositive et qu'on est sous traitement, on peut donner la vie à un enfant qui soit en bonne santé et séronégatif.
Vous dites on peut, aujourd'hui on est sur quel pourcentage ou est-ce qu'il y a des enquêtes déjà?
Oui, on est pratiquement à 100% de bébés négatifs chez les mamans qui sont dépistées et traitées.
Un petit mot Morgane par rapport justement à cette évolution entre ces années 90 et les années d'aujourd'hui, entre progrès de médecine et évolution des mentalités malgré tout.
Alors, j'ai eu quand même 4 enfants. La dernière née en 2013. Elles sont toutes les 4 séronégatifs. Mais en 2013, j'ai encore combattu. Je m'aperçois que maintenant, j'aide des mamans qui découvrent leur séropositivité pendant la grossesse. Je les aide, je les soutiens. Mais on s'aperçoit qu'encore en ruralité, certaines maternités n'acceptent même pas le suivi de grossesse ou d'accoucher. Donc, on essaye de faire avancer encore là-dessus. Nous, en 2017, on a créé la première association dans le 22. Donc, voilà, comparé à Paris...
Le 22, les Côtes d'Armor, hein.
Tout à fait, voilà. Donc, qui s'appelle Gallenbraise, c'est une association de patients. On est la seule, il y a à peine 2 ans, donc on est tout jeune. Mais parce qu'il y avait un besoin, justement, comme vous dites, d'échanger, de pouvoir en parler et de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue. Donc, nous aussi, on fait du témoignage auprès des professionnels, des jeunes. J'ai 4 enfants, ma grande a 18 ans maintenant.
Et c'est pour cet espoir, Morgane, qu'on voulait vous donner la parole et même conclure cette heure pour faire le tour de la question. Et longue vie à vous et longue vie à vos 4 filles, Morgane. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. On aurait pu, Julie, pour faire le tour de la question, parler beaucoup de choses. On n'a pas ouvert vers l'Afrique, vers les pays étrangers, la Russie, les quelques 37 millions de cas dans le monde. C'était aussi une autre problématique. Mais on voulait faire ce tour de la question sur l'évolution du sida en 25 ans en France. Et je remercie beaucoup le docteur Karmochkine d'être venu avec nous ce matin. Et Aline Pelletier, chargée de mission à l'association Arémédia. Et bien sûr, tous les auditeurs qui nous ont appelés. Valérie, que je n'ai pas eu le temps de prendre, qui nous appelait de Courtenay. Tous ceux qui ont été avec nous. On va continuer évidemment à en parler parce que ce tour de la question, il mérite d'être fait. Dans un instant, autre domaine, Julie, les podcasts, la radio.
Europe 1, 10h-5.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.